RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Excusez-moi. Bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On vient d'évoquer notre rapport aux ressources naturelles et notre manière de les exploiter. Je vous propose jusqu'à 11h de regarder une alternative à l'extraction des matériaux nécessaires, en particulier à la fabrication de nos smartphones. Et cette alternative, vous la connaissez, c'est le recyclage. Recyclage de nos téléphones. On va même parler de réemploi ce matin avec nos invités jusqu'à 11h. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Que faites-vous de vos anciens téléphones portables? Est-ce que vous les jetez ou alors vous essayez de faire en sorte qu'ils soient recyclés? Est-ce que vous avez l'habitude d'acheter d'ailleurs des téléphones de seconde main ou alors vous préférez les acheter neufs? Et si vous connaissez des organismes, des associations, des lieux de collecte également pour les téléphones en fin de vie, n'hésitez pas à venir nous les présenter. Vos réactions, vos témoignages au 04 72 38 20 23. Par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour discuter jusqu'à 11h avec nous, deux invités que je vous présente. Tout d'abord, Sarah Maisonneuve, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RCF. Vous êtes la directrice adjointe des ateliers du bocage. Alors, c'est une coopérative d'utilité sociale et environnementale, membre également du mouvement Emmaüs que vous allez nous présenter dans cette émission. Avec nous également Claire Lemarchand, bonjour.
Bonjour.
Merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille en studio. Vous êtes la porte-parole d'Écosystème. C'est une éco-entreprise, là aussi, que vous allez nous présenter. Je suis confus pour ma voix que vous entendez, qui est légèrement cassée. Voilà, je sors d'un bon rhume. Donc, voilà, mais j'espère tenir au moins jusqu'à 11 heures. J'aimerais, Claire Lemarchand, qu'on commence peut-être par éclaircir ce qu'on entend par recyclage, par réemploi des téléphones. Vous, quelle est votre définition, Claire Lemarchand?
Alors, c'est une définition très simple. Le recyclage, c'est la réutilisation des matières qui composent un appareil, un équipement. Tandis que le réemploi, c'est déjà changer de propriétaire, donc ça s'appelle le don, en passant par une étape de remise en état. Si l'appareil a besoin, soit d'une remise en état esthétique, soit d'une petite réparation. Voilà ce qu'est le réemploi. Donc on donne une deuxième vie à l'appareil plutôt que de le recycler, parce que le recyclage, c'est l'ultime solution.
C'est-à-dire?
Mais c'est-à-dire quand on a un appareil électrique, par exemple le téléphone, on l'utilise le plus longtemps possible. Aujourd'hui, les Français utilisent en moyenne leur téléphone 2 ans et demi, ce qui est très peu. Ils en changent tous les 2 ans et demi, en général pour un neuf. Et puis, ils gardent leur ancien téléphone dans un tiroir, dans une boîte à chaussures, enfin, tout ce qu'on veut, au cas où. Et à la fin, ça fait 46 millions de téléphones qui dorment dans les tiroirs des Français. Et autant de matières qui pourraient être recyclées ou autant de téléphones qui pourraient, en tout cas une partie, avoir une deuxième vie et être utile à d'autres personnes, notamment si on passe par des structures comme les ateliers du bocage qui permettent de les réemployer et de les vendre à prix solidaire.
Alors justement, c'est une très bonne transition puisque vous avez dit, Claire Lemarchand, que le recyclage des téléphones, c'était l'ultime solution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Sarah Maisonneuve?
Oui, bien sûr. Je ne peux que être d'accord. Prolonger la durée de vie des matériels numériques, eh bien, c'est la meilleure manière de réduire son impact environnemental et social. La fabrication d'un téléphone mobile, par exemple, ça demande énormément d'énergie, énormément de matière. Ça demande de l'extraction de matière dans des pays africains ou en Amérique du Sud, dans des conditions sociales pour les salariés là-bas qui sont pas celles qu'on trouve en Europe. Et donc, tout ce poids social et environnemental, la meilleure manière de le réduire, les études le montrent, c'est de prolonger la durée de vie du matériel. Si on peut utiliser téléphone 2-3 ans de plus, c'est la meilleure chose à faire pour la planète et pour l'humain.
Voilà, donc on va.
Et en plus, chez nous, ça crée des emplois solidaires.
Voilà, mais ça, bien sûr, on va en parler. Vous inquiétez pas, Sarah Maisonneuve. Donc, c'est bien parce qu'on utilise deux actions, on va dire, à la fois le réemploi et le recyclage. Si on s'intéresse au recyclage, Claire Lemarchand, est-ce que un téléphone est recyclable à 100%?
Absolument pas. Je vais vous décevoir. Il y a plein de raisons pour ça. D'une part, dans un téléphone, il y a une grande partie de 30 à 50% suivant les types de téléphone,
Prenons un smartphone, par exemple.
Smartphone. Mais même suivant les smartphones. Oui. Ils ne sont pas tous fabriqués de la même façon. Mais il y a du plastique. Les plastiques se recyclent pas facilement. Ça dépend des molécules qui le composent. Et puis, par ailleurs, vous savez, pour que les appareils aujourd'hui soient légers, le plus légers possible, on colle les différents sous-ensembles entre eux, ce qui fait qu'au moment de recycler, du métal collé à du plastique, eh ben, ça se sépare pas bien et il y a de la perte de matière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les différents métaux qui composent le téléphone, ben il y a des en toute petite quantité, il y a des métaux précieux, l'or, l'argent par exemple, le platine, le palladium, et puis des terres rares. Je vais pas vous les citer, c'est tout des noms en iom, du latin pour ceux qui se souviennent de leur cours. Bref, et c'est en tellement petite quantité que les extraire, c'est très compliqué. C'est comme si on essayait d'extraire un grain de sel d'une ratatouille.
Ah oui.
Pour vous donner une image qui parle à peu près à tout le monde. Ouais. Donc ça nécessite de la recherche et développement, ça nécessite des procédés qui sont pas simples. On arrive à le faire pour certains matériaux, l'or, l'argent, on arrive à le faire aisément. Pour d'autres métaux ou terres rares, c'est plus complexe et on n'est pas forcément encore en capacité de tout recycler de façon industrielle. On arrive à le faire en laboratoire. Mais pas forcément de façon industrielle, parce que c'est pas les mêmes logiques.
Oui.
Et c'est ça qui est complexe. Donc, le recyclage, c'est toujours l'ultime recours. Je vous parle même pas de la poubelle des ordures ménagères, ça c'est jamais.
Ah oui. Ça c'est à bannir.
On ne jette jamais son téléphone ou tout autre appareil électrique dans sa poubelle. Tout simplement parce que sinon l'appareil n'est pas recyclé, première chose. Et puis tout appareil électrique contient plus ou moins de polluants. Et donc, avant de recycler, le rôle d'écosystème, c'est aussi de dépolluer. Sinon, ça se retrouve dans la nature, soit dans l'air, soit dans les sols, suivant que le matériau est à l'état gazeux ou solide. Et donc, ça se retrouve soit dans nos poumons, soit dans notre assiette, à un moment ou à un autre de la chaîne alimentaire. Il y a un moment, ça revient vers nous, c'est certain. Donc, protéger l'environnement, ça c'est la première chose, mais c'est aussi protéger la santé.
Donc voilà, ça c'est pour le recyclage. On entrera plus dans le volet technique dans un instant. On évoquera ce qu'on appelle le taux de recyclage, le taux de valorisation également, parce que ça a son importance pour savoir pour chaque téléphone ce qui peut être vraiment recyclé, réutilisé. Sarah Maisonneuve, donc pour les ateliers du Bocage, vous êtes beaucoup plus centré sur ce qu'on appelle le réemploi des téléphones, mais aussi des outils informatiques, tout simplement. Sarah Maisonneuve, qu'on va retrouver dans un instant. Ça me permet de vous rappeler que vous pouvez témoigner en temps réel au 04 72 38 20 23. Pour témoigner, vous pouvez également laisser vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense donc que j'agis. Sarah qui s'est déconnectée, mais promis, on va la retrouver dans un instant. Je la vois en train de manipuler son téléphone. Eh ben Claire, c'est pas grave. Rentrons justement dans le volet un peu technique avec ce qu'on appelle le taux de recyclage et le taux de valorisation. C'est ce que vous essayez aussi de mettre en avant, vous, quand vous expliquez ce qu'on entend par le recyclage des téléphones portables, avec à peu près, c'est une moyenne, je pense, Claire Lemarchand, 78,2% des matières qui sont recyclées pour les téléphones.
Alors, vous me prenez un froid là. J'ai plus le chiffre exact en tête.
Bon, je vous le donne. Ça dépend. Il est sur votre site.
Enfin, oui. Voilà. Ça dépend, en effet, après des modèles, matériaux qu'ils composent. En effet, après, il y a une partie qui est valorisée. Alors, la valorisation, c'est souvent la valorisation thermique, enfin qu'on appelle énergétique, c'est-à-dire que les matériaux sont brûlés pour créer de l'énergie ou de la chaleur, qui est une forme d'énergie, soit pour chauffer, soit en chauffage urbain, soit de l'énergie par la chaleur, pour faire fonctionner les ondes de traitement, par exemple, ou tout un tas d'autres unités industrielles.
Ouais. Donc ça, c'est vraiment la valorisation. Si on prend l'exemple des différents matériaux des téléphones, je crois que, par exemple, les écrans sont les écrans de smartphones ne sont justement pas très bien recyclables, ni on peut moins les valoriser.
Absolument. L'écran de smartphone, on a l'impression que c'est une jolie vitre.
Oui.
En fait, c'est un millefeuille et chaque couche est quasiment pas visible à l'œil nu. Et toutes les couches ne sont pas constituées de la même façon. Et à l'intérieur, alors, je suis pas ingénieur, pardonnez-moi, j'essaie d'utiliser un langage simple pour qu'on comprenne. Mais à l'intérieur, il y a tout un tas de technologies, notamment par exemple LCD, comme sur les télés, mais et tout un tas de technologies qui permet, lorsque vous naviguez sur votre smartphone, de composer un numéro, de scroller, de faire tout un tas de choses. C'est entre chaque millefeuille.
Oui.
Et ça, c'est des matières polluantes. En fait, la technologie, c'est pareil, c'est pas magique, hein. Donc, il y a besoin de tout un tas de technologies qui nous rendent service, mais qui ont une contrepartie, qui ne sont pas simples à recycler et qui sont potentiellement polluantes, pas toutes, mais majoritairement. Et donc cette complexité, ce millefeuille, ça rend le recyclage complexe.
Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'on ne recycle pas un plastique X comme un plastique Y. Et la première étape, c'est de les séparer.
Oui.
Et c'est pas toujours possible quand c'est dans quand c'est collé, quand c'est aggloméré, quand il y a différentes strates qui sont très fines, c'est très complexe.
Voilà, ça c'est. Mais c'est bien d'entrer un petit peu dans le volet technique. C'est intéressant parce que je pense qu'on a tous un smartphone entre nos mains et ça permet de prendre conscience un peu comment ils sont fabriqués et comment ils peuvent être ou non d'ailleurs recyclés. Sarah Maisonneuve, on vous a retrouvé. Vous n'étiez pas loin. Je vous posais une question sur le réemploi parce que c'est vraiment aussi l'objectif des ateliers du bocage. Donc par réemploi, on entend donner une nouvelle vie à un téléphone, c'est souvent ce qu'on entend par seconde main également.
C'est ça, ça va un peu plus loin que la seconde main. Dans le réemploi, il y a toute une notion de test de fonctionnalité qui fait que on va revendre, remettre sur le marché un matériel, mais c'est pas juste un matériel d'occasion, c'est vraiment un matériel qu'on va avoir testé, effacer les données, enfin, fait tout un tas d'opérations qui vont permettre de le remettre sur le marché dans un état proche de celui qu'il était neuf. Donc on va commencer par tester toutes les fonctionnalités. Donc sur un smartphone, c'est plus de 70 points de contrôle.
Oui.
On va simplement vérifier si on peut appeler déjà, si on peut prendre une photo, si le Wi-Fi fonctionne, jusqu'à des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Une étape très très importante, on va effacer toutes les données pour que le nouvel utilisateur n'ait absolument accès à aucune donnée du précédent utilisateur. Donc toutes les photos, les contacts, tout ce qui peut être lié à l'ancien utilisateur est effacé. On utilise pour ça des logiciels spécialisés, certifiés par l'Agence nationale de la sécurité informatique.
Oui. Hein,
tout ça est très très cadré.
Réglementé, oui.
Mmh. Ouais, voilà. Voilà, donc on a pour mission, nous, de remettre sur le marché des téléphones ou des matériels numériques qui ont exactement les mêmes fonctionnalités et zéro data comme du neuf. La seule différence, c'est qu'il peut y avoir des traces d'usure. Donc il y a aussi une étape de grading, vraiment, on note l'esthétique, la cosmétique du matériel et l'acheteur de matériel reconditionné va acheter en connaissance de cause un matériel qui va être, alors chez nous, en grade A, qui va être quasiment comme neuf, quelques micro-rayures acceptées, ou grade B, grade C. Grade C, ça va être des micro-rayures ou des rayures plus prononcées, enfin des vraies traces d'usure qu'on va voir. Bien sûr, il y a une décote sur le prix si les traces d'usure se voient plus. Mais voilà, il est 100% fonctionnel et il peut avoir des traces de l'utilisation d'avant sur son esthétique.
Est-ce que c'est ce qu'on entend également par téléphone reconditionné ?
Ah ben c'est ça. C'est ça. La ouais. définition même. Alors tout ça est très réglementé. Il y a des définitions et reconditionné. C'est vraiment ça. On n'est pas sur du matériel d'occasion que je sais pas si moi je revends à ma petite nièce un téléphone, j'aurais effacé vite fait les données. Là, c'est de l'occasion. C'est oui. ou ce que vous pouvez peut-être trouver sur le bon coin. Le reconditionner, c'est pas juste revendre un ancien matériel. C'est vraiment lui faire passer toutes ces étapes là qui vont garantir qu'il va être revendu 100% fonctionnel et 100% données effacées certifiées.
J'aimerais qu'on accueille Dominique au 04 72 38 20 23. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Vous êtes
bonjour à vos auditeurs et à vos invités. Voilà.
C'est gentil.
Je voulais simplement vous signaler que j'ai lu très récemment un article sur Internet concernant le recyclage des smartphones Apple.
Oui.
Et l'un des grands, avec Samsung, ce sont parmi les plus grands
vendeurs,
producteurs. Oui. Oui, producteurs, vendeurs. Et j'ai vu que c'était vraiment impressionnant. Ils ont des robots qui désossent complètement les appareils qu'on peut leur qu'on leur ramène. Les premières générations, si vous voulez voilà, dès les premières générations de smartphones Apple. Sont complètement désossés et les pièces réutilisées, enfin, ou recyclées après vérification, etc. Mais vraiment, j'ai été impressionné par cette information.
Par cette information, voilà. Mais c'est une oui. bonne information et merci beaucoup Dominique. Alors, il n'y a pas de publicité à faire pour une marque ou une autre, mais ça reste quand même une marque très connue pour les téléphones avec un robot qui s'appelle Daisy et en effet qui a pour mission de vraiment désassembler les téléphones pour recycler au mieux. Est-ce que vous connaissez Claire Lemarchand ou en tout cas, est-ce que vous remarquez que sur le marché, les principaux vendeurs de téléphones se mettent quand même aux normes en termes de recyclage, de désassemblage?
Alors, ils sont tous aux normes en ce sens que ce soit les marques qui ont été citées par oui. Le monsieur qu'on vient d'entendre, que je salue, ou d'autres, chaque producteur, chaque fabricant, chaque distributeur a l'obligation en France et en Europe de s'occuper de gérer la fin de vie de ses appareils électriques qu'il vend, qu'il met sur le marché. Et il a deux options. Soit il adhère à un éco-organisme comme écosystème, et nous, on porte cette responsabilité pour son compte. Soit il le fait lui-même. Et dans l'exemple qui a été donné par monsieur, c'est Apple qui récupère ses propres téléphones pour les reconditionner. Je ne pense pas qu'ils recyclent les matières, mais oui. J'en suis pas certaine, donc je laisserai Apple s'exprimer sur le sujet.
Oui. Je ne sais pas si on va les inviter, mais c'était voilà aussi important de mettre en avant certaines choses. Si on regarde un peu la loi Sarah Maisonneuve, si on regarde alors Sarah Maisonneuve, je crois qu'on a perdu encore, et j'espère qu'on va retrouver dans quelques instants. On va l'appeler par téléphone. Je pense que ce sera beaucoup plus stable. Claire Lemarchand, je me retourne vers vous. Heureusement que vous êtes là. J'ai perdu ma question. Oui, au niveau de la loi, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, est-ce que c'est quand même de mieux en mieux encadré ce qu'on entend par recyclage des téléphones, par réemploi également ?
Le recyclage, le réemploi, la réparation sont très bien encadrés en effet en France. Le recyclage depuis quasi 18 ans. Pour les appareils électriques électroniques, en effet, donc pour écosystème, enfin en tout cas, ça nous donne la feuille de route de recyclage, les objectifs que l'on doit atteindre. Et en effet, depuis la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a maintenant 2 ans de mise en œuvre, la réparation et le réemploi des appareils est poussé encore plus, puisque l'idée, c'est que avant le recyclage, il y a des étapes qui priment pour allonger la durée de vie des appareils, puisque pour répondre à l'adage, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc, avant de remplacer un appareil par... ça dépend des types d'appareils, mais parce qu'on veut le dernier modèle, parce que tout un tas de raisons, on voit si on peut pas déjà le garder un peu plus longtemps. Et c'est la meilleure option, quoi qu'il arrive, avant de réparer. Déjà, on va bien entretenir son appareil, bien l'utiliser. Oui. Sur les téléphones, il y a des manips très simples à faire. Et puis, ensuite, on le répare S'il y a une petite panne ou même une grosse, au moins on fait diagnostiquer. Et pour ça, en plus, depuis un an déjà, il y a une aide à la réparation qui s'appelle le bonus réparation, qui est payé entre autres par Écosystème et par les fabricants d'appareils électriques. Et puis, en effet, en dernier recours, quand vraiment on peut plus rien pour son téléphone, là, on peut l'envoyer aux ateliers du bocage. Écosystème est partenaire des ateliers du bocage et a créé un service gratuit qui s'appelle « Je donne mon téléphone.fr ». C'est sur ce site qu'on retrouve toutes les informations. Ça permet d'envoyer ses anciens téléphones gratuitement avec une enveloppe prépayée aux ateliers du bocage, qui va quand même regarder si on ne peut pas lui donner une deuxième vie avant de l'envoyer au recyclage.
On a retrouvé Sarah Maisonneuve. Alors, je ne sais pas si vous avez un problème de smartphone. Il va peut-être falloir le recycler.
Il marche bien, normalement.
Il fonctionne bien.
Non, mais de
c'était une petite boutade. On parle donc de recyclage, de réemploi ce matin. D'un point de vue Union européenne, qu'est-ce qui est dit? Quelle est la priorité entre les deux? Sarah?
La priorité va toujours au réemploi. C'est ce que je disais, ce qui a l'impact le plus fort en termes de réduction de l'impact environnemental et social de la fabrication du matériel. Ensuite, à la réutilisation, qui est utiliser le matériel, mais pour un autre usage que celui prévu initialement. Ensuite, le recyclage, qui permet de récupérer les matières. Et ensuite, en toute bout de course, on va éventuellement faire de l'incinération, si possible, avec récupération de la chaleur, je sais pas, pour chauffer des quartiers d'immeubles. Voilà, il y a des incinérateurs comme ça qui existent, qui chauffent des logements. Et en tout dernier lieu, quand vraiment on n'a plus le choix, l'enfouissement.
Ah oui, ça aussi c'est à bannir. Et enfouissement, c'est en général par, c'est pas les particuliers qui peuvent faire ça.
Ah ben non. Ouais. Après ça se gère au niveau des pouvoirs publics de gestion des déchets, hein, tout simplement. Mais par contre, il est bien important que chacun prenne conscience d'un téléphone, mais de tout objet qu'on a, hein. Il a une fin de vie et que tout, malheureusement, pourra pas être recyclé. Et ça, on l'a vraiment pas tous suffisamment en tête. Et même quand on le sait, c'est bien compliqué d'essayer d'agir pour réduire au maximum ses déchets et donc acheter du reconditionné. Et avant même cela, la sobriété dans les achats, tout simplement. Acheter moins, changer moins de téléphone tant qu'il marche encore, ne pas céder aux sirènes du marketing qui vous donneraient envie d'acheter toujours le dernier modèle. C'est lourd en termes d'impact pour notre planète et pour l'humain, donc il faut qu'on en prenne collectivement plus conscience.
Henri, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci de prendre mon appel. J'avais trois petites questions.
Oui.
La première, est-ce qu'on peut acheter directement au bocage des appareils ou est-ce qu'il faut passer par des revendeurs?
Oui, alors c'est pour vous, Sarah Maisonneuve.
Oui, merci de cette question. Eh bien, oui, on a un site Atelier du Bocage, tout simplement. Si vous tapez Atelier du Bocage sur Internet, vous tomberez sur notre site et le site boutique s'appelle boutique.atelierdubocage. Enfin, vous allez trouver très facilement. Également, on a quatre boutiques dans l'Ouest. Je ne sais pas si vous êtes dans l'Ouest de la France, mais on a des boutiques à Niort, à Poitiers, à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, nous sommes situés, et à Cholet.
Voilà. Henri qui est à Lyon, hein, je crois que ce sera un peu compliqué pour vous de vous déplacer, donc plutôt la boutique en ligne, Henri.
Ok, on verra. Deuxième question, c'est nous avons un téléphone, il est tombé malheureusement, la vitre est abîmée et il est impossible de la remplacer car l'appareil ne se fait plus et plus personne ne veut la changer. Est-ce que vous prenez en charge ce genre de téléphone? Là c'est un Doro.
Alors Sarah ou Claire d'ailleurs sur cette question, peut-être vous, Claire Le Marchand.
Alors, ça dépend ce qu'on entend par prendre en charge et ce qu'on va pouvoir le réparer. Nous, Écosystème ne répare pas. Hein. On aide à la réparation par une aide financière auprès de réparateurs Qualirépare, qui vont vous faire profiter du bonus réparation. Après, c'est aux réparateurs de diagnostiquer. Mais si, en effet, la vitre n'est plus fabriquée,
Ça paraît
malheureusement
un peu
compliqué. Et c'est un enjeu, hein, les pièces détachées dans la réparation, leur disponibilité sur la durée. C'est un vrai enjeu. Mais là, moi, je ne pourrais pas vous répondre sur ce cas précis.
Sarah, qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien là, s'il n'y a plus l'accès aux pièces détachées, aucun réparateur ne pourra faire de miracles, à moins d'avoir des stocks d'occasion. Mais après, c'est la solution, je donne mon téléphone.fr, à minima, de faire recycler proprement le téléphone, donc de le renvoyer par je donne mon téléphone.fr.
Voilà Henri, et votre troisième question ?
La troisième question la plus importante, et le reconditionnement, c'est bien, mais qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à l'obsolescence programmée qui est inhérente pratiquement à tous les appareils ? Et dans l'appareil, il est programmé que ses capacités, ses performances diminuent avec le temps. Et donc, quand on achète un appareil reconditionné, on se retrouve avec ce problème-là, quoi.
Ça vous fait bien de pointer du doigt ce sujet. Henri, merci beaucoup pour vos trois questions. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah ?
Alors ça, c'est un enjeu au niveau des pouvoirs publics et voire au niveau de l'Europe, hein, dont s'emparent les pouvoirs publics français et européens. Il n'y a que comme ça que ça pourra bouger, effectivement. Peut-être Claire pourra répondre sur la... Il y a des nouveautés qui allongent la durée de vie des matériels en ce moment.
Oui, Claire Lemarchand.
Oui. C'est interdit, hein, c'est un délit. Après, en effet, au pouvoir public de sanctionner. Mais l'obsolescence programmée est un délit. Donc, il n'y a pas de sujet. Après...
Dans les faits...
Après, c'est comme les humains, les appareils s'usent. Il y a un moment, ils sont un peu moins performants. Ouais. Donc, il faut aussi en avoir un usage correct. Après, je n'ai pas d'exemple précis. Enfin, je ne sais pas si monsieur a un exemple précis en tête, mais... C'est un débat complexe en réalité. Tout dépend de l'appareil qu'on a acheté, tout dépend de la façon dont on l'a utilisé. Prenons l'exemple d'un lave-linge, ce sera peut-être plus parlant. Si je suis une famille de 5 versus un ménage à 2 personnes, donc que je fais 3 fois plus de lessive que le ménage à 2 personnes avec le même appareil, et au bout de X années, y a un lave-linge qui aura beaucoup plus servi que l'autre et qui sera plus usé que l'autre alors qu'ils sont identiques. Il y a une question aussi de comment j'utilise, combien de fois, etc. Donc il faut, être assez serein quand même sur le sujet.
Il y a déjà des avancées.
C'est quand même très encadré.
Ouais, voilà. Et puis reprenons l'exemple des smartphones. C'est souvent le problème de logiciels internes, hein, qui posait des soucis. Et maintenant, je crois que les fabricants, les exploitants ont l'obligation, de faire en sorte que les anciens téléphones puissent se mettre à jour également. Et ça, c'est quand même une grande avancée. Parfois, c'était très bloquant pour les téléphones qui avaient déjà quelques années. Bref, on n'a pas fini.
Et puis, je rappelle que un des acteurs de l'obsolescence programmée, c'est aussi le détenteur de l'objet. Je rappelle que les Français, en moyenne, changent de téléphone alors qu'il fonctionne encore tous les 2 ans à 2 ans et demi.
Oui. On va continuer d'en parler dans un instant. Sarah Maisonneuve, je crois que vous vouliez également parler. Petite pause, on accueillera Martine et Jacques au 04 72 38 20 23. Vous continuez de nous appeler pour nous parler du recyclage et du réemploi de vos téléphones et de vos smartphones. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Allez, 10h30 dans Je pense donc j'agis. Réemploi, recyclage des smartphones. On en parle jusqu'à 11h avec nos deux invités, Sarah Maisonneuve, des ateliers du bocage, et Claire Lemarchand d'Écosystème. Vous continuez de nous appeler également pour témoigner, nous donner vos idées au 04 72 38 20 23 ou alors directement dans notre groupe Facebook Je pense donc j'agis. Voici Raphaël.
Je fais des heures sup, les nouvelles du jour ne sont pas bonnes. Guerre à l'est, effet de serre, qualité de l'air dégradé. Serré dans le métro, serré au cou, je défais mon col.
assez de bonheur pour tout le monde. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, c'est du vol. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, c'est du vol. Une ambulance passe 100 à l'heure. Il faut bien que quelqu'un meure. Je remonte chez moi. J'allume les infos, se plonge tout droit dans les égouts. Je regarde l'heure, tu n'es pas là. J'imagine ce qui pourrait arriver, non. N'imagine pas dehors, il pleut sur ceux qui n'ont rien. Serré dans les tentes, sous le métro aérien. Ferme les yeux, déjà non, ne les ferme pas. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour. Des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, si tu veux. C'est la nuit, qualité de sommeil dégradée. Je sors sur le balcon, tout est englouti par l'horizon. Une sirène au loin, c'est presque demain. Il paraît que le lithium se dissout dans les étoiles. Il paraît que le soleil se lèvera un jour pour tout faire cramer, pour de bons lance-fleurs. Mais moi, moi,
je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour.
Heure sup, c'était le chanteur Raphaël pour vous accompagner en ce mardi matin.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec Sarah Maisonneuve, je rappelle que vous êtes la directrice adjointe des ateliers du Bocage et Claire Lemarchand, porte-parole d'Écosystème. Bonjour Martine.
Oui, bonjour.
Bienvenue au 04 72 38 20 23, on vous écoute.
Oui, voilà, j'avais une question, merci pour votre émission. J'ai un téléphone qui est un réemploi en fait.
Oui.
Je voulais vous demander comment on pourrait agir sur les opérateurs qui proposent toujours des... La technologie plus performante avec la 4G, la 5G,
oui.
Et puis toutes les ondes qui sont liées à ces technologies, et les téléphones qui sont de plus en plus performants et dont les personnes sont friandes. Beaucoup de personnes sont friandes. Alors, pourquoi... toujours aller vers plus de technologies. Le recyclage des appareils dépend aussi de ça. Parce que, en oui. moyenne, vous dites que les téléphones sont à peu près
recyclables. Oui.
Recyclables.
Oui.
Et les personnes, les. Oui, les personnes ne...
Je ne sais pas où voulez-vous en venir, Martine.
On garde un téléphone en moyenne 2 ans, 2 ans et demi.
Oui.
Et c'est pour avoir plus de possibilités, toujours oui. plus de possibilités. Alors pourquoi cette course
Ah oui, la course aux nouvelles technologies. Bah écoutez, merci beaucoup Martine. Alors si je devais me faire l'avocat du diable, je dirais c'est le principe des nouvelles technologies où justement il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent sur le marché et que faut s'y mettre. Mais c'est pas aussi simple que ça. Claire Lemarchand, je me tourne vers vous. Peut-être qu'on pourrait avoir un élément comparatif entre un smartphone de 2024 et un téléphone à touche de 1999, type Nokia 3310, et je me permets de citer pour le coup, parce que je pense qu'on le situe, mais est-ce que vous savez à peu près si ces vieux téléphones se recyclent mieux que nos smartphones actuels ?
Alors, je vais vous répondre de façon intuitive. A priori, oui, mais ils ne rendent pas les mêmes services.
Oui.
C'est difficile de prendre une photo avec un Nokia 3310. Voilà, les choses ont évolué. Moi, je n'émettrai pas de jugement. Ce qui est certain, et Sarah Maisonneuve en parlait tout à l'heure,
oui,
la sobriété est un enjeu fort.
Oui.
Autrement dit, faisons en sorte d'acheter ce dont on a besoin et moins ce dont on a envie, ce qui va nous nourrir en termes de plaisir assez sur une période assez courte en réalité. Donc c'est un vrai changement de paradigme qu'on doit opérer. Je rappelle un point important, 70 à 80% de l'impact environnemental d'un appareil électrique, quel qu'il soit, téléphone inclus,
oui,
l'impact environnemental à 80%, c'est la fabrication. C'est l'étape de fabrication. Oui. Donc plus je renouvelle rapidement, plus finalement je vais impacter les ressources naturelles. Elles sont pas infinies, on le sait. L'extraction minière, parce que c'est de ça qu'on parle hein, quand
oui,
on parle
oui,
de
oui,
ressources naturelles.
Oui.
C'est une activité qui est polluante pour l'environnement, qui socialement, selon où se situent les mines dans le monde, et en général, elles ne se situent pas dans des endroits, en tout cas de façon majoritaire, où le droit social est quelque chose de prégnant. Il y a des mines qui font travailler des enfants. On parle en République démocratique du Congo, en RDC, de 1200, mais il y en a ailleurs. C'est un vrai sujet. Il faut savoir, quand on fait un achat, il faut avoir conscience de ce qu'on achète. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter, mais on n'est pas obligé de... On est rentré dans une forme de frénésie qui peut être questionnée. Et,
oui,
et voilà, et chacun après fait comme il l'entend. Mais la dame qui parlait disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre les opérateurs, contre... Le consommateur a un vrai pouvoir d'action, mais c'est lui qui choisit d'acheter ou pas. Alors, bien sûr, on est sans cesse sollicité par les sirènes du marketing, mais on n'est pas des... On est des êtres pensants. Donc,
ouais,
on peut aussi se raisonner.
Non, mais c'était intéressant d'y revenir parce que c'est vrai que c'est un discours qu'on entend assez souvent. C'est à quoi bon avoir toutes ces nouvelles technologies quand parfois ça ne sert à rien? Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'une machine à laver le linge, par exemple, il y a 50 ans, c'était des programmes extrêmement longs, extrêmement polluants, ça consomme énormément d'eau. Maintenant, on a des lave-linges, je pense. Alors, je suis pas expert non plus en lave-linge, mais qui permettent de laver le linge en 15 minutes. C'est quand même extrêmement pratique le dimanche soir quand on rentre de week-end. Ça, je peux témoigner. Et qui consomment beaucoup moins d'eau. Et ça reste quand même des nouvelles technologies. Vous voyez?
Absolument. Et on peut pas comparer toutes les nouvelles technologies. Voilà. Et on est tout à fait d'accord et vous avez raison de le souligner. En revanche, je mets ma main à couper que
oui,
au regard des 15 options de lavage que vous avez sur votre lave-linge, vous en utilisez deux.
C'est fort probable.
Toujours les mêmes.
Tout à fait. Mais parce que c'est en fonction aussi du consommateur. Si on est une famille nombreuse, peut-être que d'autres... Mais bref, on va pas rentrer.
Je serais assez curieuse de faire un sondage et Je dis pas que je connais déjà les résultats, mais je pense que chaque auditeur, à mon avis, aura à peu près la même utilisation.
Sarah Maisonneuve, je crois que vous vouliez réagir également.
Y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. C'est un vrai sujet hein, qui a amené cette auditrice. On pourrait en parler pendant des heures. Hein.
Ouais.
C'est le progrès, la frénésie de la consommation, tout ça un peu mélangé. Pour ma part, je pense qu'on peut avancer avec le progrès. Vous faites bien, Melchior, de parler du lave-linge. Moi, comme je dis souvent, je voudrais pas revenir à l'âge de ma grand-mère, à faire le linge à la rivière. Hein. C'est un peu bucolique, mais bon, ce qu'on sait tous les jours, c'est un peu lourd. Et puis, il y a beaucoup de conséquences après, pour les femmes en particulier. Donc, non, je suis pas contre le progrès, mais dans le progrès, il y a aussi à boire et à manger, et surtout, on peut suivre le certaines formes de progrès, mais sans changer tout le temps de matériel. Donc, il faut être un peu raisonné dans sa consommation, oui, tout en suivant son temps, parce que je pense que ça, on peut rien y faire. Voilà, il y a des nouvelles technos, les jeunes y vont, et ça apporte du plus, ça apporte du moins aussi, et il faut faire avec. Mais dans tout ça, la sobriété est possible.
Continuons de vous entendre au 04 72 38 20 23. Nous avons Jacques tout de suite. Bonjour Jacques.
Bonjour.
C'est à vous.
J'écoute avec intérêt votre émission. J'écoute habituellement. Et ce matin, sur le recyclage et le réemploi des téléphones,
oui,
intéressant tout plein. Mais quand vous avez parlé des ateliers du bocage, là, du coup, mon oreille s'est redressée. On est sur RCF quand
oui,
même. Hein. Alors j'aimerais bien quand même qu'on entende parler un petit peu de ce que sont les ateliers du bocage sur le plan social, humain, de leur historique. Ils ont existé sensiblement avant l'invention des téléphones portables.
En 1992, si je me trompe pas, mais vous faites bien, Jacques, vous devriez prendre ma place parce que vous apportez des éléments intéressants dans l'émission, mais on y venait, donc ça tombe bien d'avoir votre appel.
J'en suis content.
Oh, bah oui.
Il y a un certain Bernard Arru, dont le nom doit être inscrit quelque part, qui est un vieux copain. Je l'ai connu avant même qu'il crée avec son équipe. Il y a Emmaüs aussi qui est dans le coup.
Ah bah oui. Ah oui. Eh ben, on va en parler. Merci beaucoup.
Quand même, on est sur RCF.
Tout à fait. Merci beaucoup, Jacques. Merci pour votre appel ce matin dans Je pense donc j'agis. Alors, allons-y, Sarah Maisonneuve, parce que ça fait quand même plus de 30 ans que vous existez, en tout cas pour les ateliers du bocage, avec des missions qui se sont légèrement transformées quand même depuis.
Oui, un grand merci pour cet éclairage de cet auditeur. Effectivement, ça fait plus de 30 ans qu'on existe, bientôt 32 ans. Alors, les ateliers du bocage ont été fondés effectivement par Bernard Arru, dirigeant fondateur, dirigeant pendant des années des ateliers du bocage, qui était très investi au sein du mouvement Emmaüs, vous savez, l'accueil inconditionnel de toute personne en situation de précarité. Et il s'est dit que pour aider les gens à retrouver une vie de qualité, les accueillir c'est bien, mais c'est par l'emploi en fait, hein. C'est l'emploi qui permet de trouver sa place dans une société, et donc il a créé les ateliers du bocage dans cette idée-là d'aider les personnes à travers l'emploi. Aujourd'hui, les ateliers du bocage, on est près de 200 salariés, et c'est toujours notre mission première, et ce qui est intéressant, c'est que on est donc toujours membre du mouvement Emmaüs, et le mouvement Emmaüs a toujours vécu sur cette activité de collecte de matériel en fin de vie, hein, j'allais dire déchets, mais de matériel, objets en fin de vie chez les particuliers ou dans les entreprises d'ailleurs, et de leur redonner une seconde vie. C'est l'image des chiffonniers d'Emmaüs, le lancement par l'abbé Pierre, voilà, récupérer des objets, les revendre, et c'est ce qui fait encore, entre guillemets, vivre le mouvement Emmaüs, une partie du mouvement Emmaüs, récupérer des objets en fin de vie, les revendre, et entre-temps permettre de faire travailler des personnes. Alors nous, on fait ça, et il faut savoir que le mouvement Emmaüs était acteur du réemploi, de l'économie circulaire. Tout ça, il y a 30 ans, avant même que tous ces mots un peu glamour, économie circulaire, tout ça existe, Emmaüs faisait ça de longue date. Hein. On associait ça plutôt aux déchets à l'époque, au côté chiffonnier, et pourtant c'était déjà ça, prolonger la durée de vie des matériels. Donc aujourd'hui, Atelier du Bocage, c'est toujours ce qu'on fait. On le fait sur des matériels numériques, donc matériel informatique, toutes sortes, PC portable, écran, imprimante, etc. Des téléphones portables, mais également des tablettes, des objets connectés comme des montres connectées, des balances connectées. Là aussi, probablement, il y a de l'avenir dans le réemploi pour ces matériels qui se démultiplient.
Oui.
On donne une seconde vie à des cartouches d'impression également. Les cartouches, c'est pareil, il faut les fabriquer. On les vide une première fois. Il faut savoir qu'elles peuvent être re-remplies jusqu'à 3 fois et continuer à servir plutôt que d'en refabriquer des nouvelles. Également, sur d'autres activités, on fait de la palette en bois pour le milieu de la menuiserie industrielle qui, de plus en plus, qu'on reconditionne. Avant, elles avaient un usage unique et de plus en plus, on les récupère, on les répare, on les remet dans le circuit. Voilà, on a une activité de livre de seconde main aussi. Toute notre activité encore est toujours tournée autour du réemploi.
Ouais. Et pour écosystème, Claire Lemarchand, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des téléphones ce matin dans Je pense donc j'agis. Bien sûr, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça concerne également tous nos appareils électroniques, nos outils informatiques, que ce soit les ordinateurs portables, les écrans, les tablettes et tutti quanti.
Oh, ça va même au-delà de ça. C'est les frigos, les brosses à dents électriques, les lave-linges, les sèche-linges. En fait, c'est tout ce qui fonctionne sur pile, sur secteur ou avec des batteries qui est pris en charge par écosystème. Un foyer français a en moyenne 80 appareils électriques et électroniques chez lui, dans sa maison. Tout ça, ça va dans un bac de recyclage écosystème, soit en déchetterie, soit en magasin.
Donc, oui, il faut en avoir conscience.
Absolument.
Bon. Claire, on va écouter Anna au 04 72 38 20 23. Bonjour Anna.
Bonjour Anna.
Ah. Anna a raccroché, c'est pas très sympa. Si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous rappeler pour venir témoigner à l'antenne. Je vous lis un message de Guillaume. Depuis que nous sommes passés au smartphone il y a 8 ans, nous n'achetons que du reconditionné et n'avons jamais eu de problème. Au début, nous passions par un grand site internet, mais les reconditionneurs n'étaient pas en France. Nous avons découvert que la boutique de réparation dans la ville la plus proche fait aussi du reconditionné. Alors, lorsque le téléphone n'est plus réparable, nous lui achetons un téléphone reconditionné. Il est juste dommage que les réparations, et notamment les changements d'écran, coûtent aussi cher que de changer certains téléphones. C'est intéressant, Sarah Maisonneuve, ce témoignage de Guillaume. Alors lui, c'est le consommateur idéal peut-être, mais on entend que parfois les matériaux sont un peu chers.
Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes hein, dans ce qu'il vient de dire, ce monsieur qui est effectivement un consommateur très éclairé. Déjà, il achète du reconditionné en conscience, c'est bien, mais en plus, il se préoccupe du côté local. Aujourd'hui, on est en train de construire l'économie de demain, l'économie circulaire. Dans le reconditionné, il y a tout un tas d'acteurs, de prestataires sur le marché. Et nous, Atelier du Bocage, par exemple, on va collecter des téléphones en France, les reconditionner en France dans notre usine des Deux-Sèvres et les revendre en immense majorité en France. Il faut savoir que il y a des acteurs aussi qui sont sur ce positionnement et puis d'autres qui vont collecter des téléphones aux États-Unis. Parce que là-bas, ils en consomment encore plus que nous. Hein. C'est pas 2 ans et demi la durée de vie, mais je sais plus, c'est 6 mois ou 1 an. Donc, il y a un gros gisement de téléphones potentiellement réemployables aux États-Unis. Qui vont les reconditionner, je sais pas, moi, en Asie ou dans les pays de l'Est, avant de les revendre en France. Donc, dans le reconditionné, il y a également différents types de reconditionnés. Là, je viens de parler du côté local. Donc, un téléphone qui aurait moins voyagé aura moins d'impact environnemental aussi à la revente. Il y a un côté qualitatif. Le monsieur a dit, j'ai jamais eu de problème. Alors, d'abord, tout reconditionneur, même en y mettant les meilleurs moyens, il y a toujours un petit taux de SAV, hein, comme du neuf. Nous, on a un taux de SAV de 3%, donc ça peut quand même arriver, mais comme sur du neuf. Et après, dans les reconditionneurs, il y a différents types de reconditionneurs avec différentes manières de faire qui vont pas amener forcément le même côté qualitatif. Il y a des projets en cours de labels en ce moment portés par les pouvoirs publics aussi, les éco-organismes, pour aussi encadrer tout ça parce que tout le monde va pas avoir la même qualité d'intervention dans le reconditionnement. Et puis, la dernière chose qu'il disait, ce monsieur, je ne sais plus, je voulais rebondir.
Sur notamment les écrans qui
ah oui,
qui
coûtaient... sur les prix des pièces. Voilà,
voilà. Exactement.
Alors, effectivement, un des
ça peut être en France,
freins,
ça. Oui, bah voilà.
Voilà, ouais. Réparation, c'est l'accès aux pièces détachées. Les pièces d'origine sont disponibles auprès des constructeurs, mais sont très chères. Donc, on va plutôt, nous, par exemple, on va démanteler les téléphones qui arrivent, on va récupérer des pièces dans tout ce qui arrive chez nous. Il existe aussi des pièces compatibles, mais qui n'ont pas toujours les mêmes niveaux de qualité. Donc voilà, le sujet des pièces détachées est un vrai sujet, à la fois de qualité et de prix, sur lequel on travaille encore.
On a retrouvé Anna. Bonjour Anna.
Oui.
Ça y est. Désolé.
Excusez-moi, mais j'étais obligée de raccrocher. J'ai attendu 13 minutes et du coup, j'ai cru que vous m'aviez oublié.
Mais non, on vous a pas oublié. C'est juste qu'il y a beaucoup d'appels, beaucoup de réactions. Mais c'est tant mieux. Mais pardon pour cette attente. On vous écoute, Anna.
Alors,
allez-y.
Simplement, je voulais avoir une question. J'ai pas de téléphone portable.
Oui.
Ça fait des années que j'en voudrais un, mais je me retiens d'en acheter à cause de toutes les questions environnementales et surtout les impacts en Afrique.
Oui.
Vous pouvez rappeler à ce sujet l'intervention d'un médecin africain qui était intervenu il y a environ 2 ans sur RCA. Et qui avait dit les horreurs qui se passaient en Centrafrique ou en RDC, je ne sais plus, par rapport à la recherche de terres rares, où on chassait les femmes des villages, etc.
Oui, et ben non, en plus on en a parlé dans la première partie de Je pense donc j'agis, donc voilà. Vous faites bien.
Alors moi je voulais simplement savoir un conseil. Quel conseil on pourrait me donner? Je me suis renseignée pour acheter un téléphone recyclé, mais j'y connais pas grand chose. Et ce que j'ai pu constater, c'est que ça coûte quand même au moins 500 €, autour de 500 €.
Je pense qu'on peut en trouver pour moins cher. Vous avez quoi comme budget, Anna?
Je les aurais, les 500 €, mais je vais pas mettre 500 € dans un smartphone, quoi. Moi, j'ai un petit téléphone portable, mais c'est vrai que maintenant, ça devient un peu difficile avec les autres personnes qui ont des smartphones pour échanger des mails, surtout pour faire des recherches sur Internet et pour prendre des photos. Donc, des fois, j'ai envie d'en avoir un quand même parce que ça me serait quand même bien utile.
Eh bien, merci beaucoup, Anna, et je me dépêche parce que il va falloir qu'on accueille notre chroniqueur dans un instant qui va nous parler d'éco-anxiété. Sarah Maison Neuf, sur la boutique des ateliers du bocage, on trouve des smartphones à moins de 500 €. Hein.
Oui, bien sûr, on trouve des smartphones d'avant de tout de 100 €. Donc, au niveau, j'entends cette auditrice qui a une démarche très très poussée. Bravo, je connais ce genre de cas de conscience, de s'interdire des choses parfois et de lutter contre presque l'élan. Donc, bon, bravo et je compatis. Je vais citer les Fairphone. Il y a une marque qui s'appelle Fairphone qui essaie de tendre vers le plus éthique, le smartphone le plus recyclable, le plus éthique, le plus réparable. Donc, il en existe en des neufs. Alors, parfois, mettre 500 € si on achète de la qualité, qu'on sait qu'on va le faire durer 10 ans, parfois ramener à l'année d'utilisation, ça peut être intéressant. Mais il en existe également en reconditionné à beaucoup moins cher, 200-300 €, voire, enfin, tout dépend.
Il y a des
donc,
solutions.
Pour une auditrice aussi engagée, je pense qu'il y a quand même des solutions. Il faut juste chercher le bon modèle et en reconditionner. Même.
Claire Le Marchand, je vais terminer avec vous. Si on a une caisse, c'est mon cas, de téléphones qui ont à peu près 20 ans chez soi, qu'est-ce qu'on peut en faire très concrètement?
Vous commandez une enveloppe prépayée sur jedonnemontéléphone.fr. Vous mettez une ou plusieurs, si vous avez une caisse, il en faut peut-être plusieurs. Vous les mettez dans l'enveloppe. Ça part directement, c'est préaffranchi, donc vous avez juste à les mettre dans une boîte aux lettres et ça part aux ateliers du bocage. Ils seront testés, voir si on peut les réemployer ou pas. Si on peut, super. C'est une deuxième vie, c'est autant de ressources qui sont pas extraites. Et puis si on peut pas, c'est recyclé, ça, c'est des nouvelles matières, des matières premières, secondaires, qui vont pouvoir participer à la fabrication d'autres objets.
Et sinon, on peut aussi essayer de trouver des collectes de téléphones portables proches de chez soi. Parfois, il y en a qui sont organisés dans des villes, notamment par Écosystème d'ailleurs.
Absolument. On organise des collectes solidaires de téléphones en amont du Tour de France, ce qui nous permet à chaque étape du tour d'offrir des téléphones reconditionnés. à des associations locales. Et puis, on a un partenariat aussi avec une association nationale à qui on remet des téléphones pour c'est France Victimes, pour fournir des téléphones avec des cartes SIM, hein, parce qu'un téléphone sans carte SIM, c'est, ça ne sert pas à grand-chose, pour les femmes victimes de violences.
Mais en tout cas, voilà, il y a des techniques, il y a des méthodes et des actions également qui sont mises en place. N'hésitez pas à vous renseigner proche de chez vous. Claire Lemarchand et Sarah Maisonneuve, ce n'est pas totalement terminé parce que, comme tous les mardis, on va accueillir notre chroniqueur. Le mois dernier, le Sénat mettait à l'honneur un sujet sensible dans une table ronde, l'éco-anxiété ou peur de l'effondrement écologique, un mal-être invisible dont les conséquences s'intensifient. Et ce sentiment d'angoisse pourrait-il anéantir nos efforts pour rendre le monde plus écologique ou au contraire pour nous aider à passer à l'action collective? On va en parler avec Julien Deséchos, directeur de publication du Média Sans Transition. Bonjour Julien.
Bonjour Melchior.
Vous nous rappelez ce qu'est l'éco-anxiété pour commencer?
Chaleurs extrêmes, catastrophes naturelles à répétition, famine, pandémie. Le tableau d'avenir est plutôt sombre dans les derniers rapports du GIEC. Et comment, dans ce contexte, ne pas craindre pour nos vies, celles de nos enfants? D'après une étude récente parue dans la célèbre revue médicale The Lancet, réalisée sur plus de 10 000 personnes dans 10 pays, près d'un jeune sur deux âgé de 16 à 25 ans souffrirait d'éco-anxiété. Et 2 Français sur 3 déclarent avoir peur face à l'avenir de la planète. L'éco-anxiété désigne finalement la peur provoquée par les menaces environnementales qui pèsent sur notre planète. C'est aussi une forme d'anxiété liée à un sentiment d'impuissance face aux problématiques environnementales. Elle s'exprime par de fortes émotions face à la dégradation de l'état de la planète, la pollution, la dégradation des sols, l'effondrement de la biodiversité, la gestion de l'eau ou encore le réchauffement climatique.
Et quels sont les troubles associés à cette pathologie, Julien, qui touche de plus en plus de gens ?
Du stress, parfois jusqu'à la crise de panique, mais aussi des pertes d'appétit, des problèmes de sommeil, des difficultés à créer des liens sociaux, voire des burn-out, énumèrent les thérapeutes interrogés par Sans Transition sur ce sujet. Et nous ne sommes pas tous égaux non plus face à l'éco-anxiété. Si les symptômes divergent d'une personne à l'autre, chacun prend tout à coup conscience du désastre écologique à venir. Par analogie, les symptômes cliniques observés sont proches de ceux d'une personne ayant subi un traumatisme important.
Et enfin, dernière question, comment sortir d'une situation d'éco-anxiété rapidement ?
La première étape, selon Alice Debiol, qui est autrice de l'ouvrage référent Éco-anxiété, vivre dans un monde abîmé, est de rompre l'isolement, notamment grâce à des groupes de parole mis en place, comme à Nantes, où cette démarche d'échange a permis aux participants de se soutenir, de chercher ensemble des réponses appropriées pour agir. Le collectif On est prêt et l'association Make Sense organisent ainsi des groupes de parole, car l'action semble être la seconde partie de la solution. Lorsque les émotions suscitées sont comprises, il serait même possible de les utiliser pour entrer en mouvement. Pourquoi ne pas s'investir ensuite dans des collectifs, associations comme les Villes en Transition, Greenpeace, Alternatiba ou Extinction Rebellion, ou dans une démarche zéro déchet avec l'association Zero Waste. L'important serait d'agir à son niveau et de se reconnecter au moment présent afin d'imaginer un futur plus enthousiasmant que celui qui nous est proposé.
Merci beaucoup Julien Deséchos. Vous pouvez retrouver tous les articles consacrés à l'éco-anxiété sur le site 100-transition-magazine.info. Merci encore Claire Lemarchand d'avoir été avec nous. Et je rappelle que vous êtes la porte-parole d'Écosystème à retrouver sur le site internet écosystème.eco. Et merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille en studio. Merci Sarah Maisonneuve.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe des ateliers du bocage à retrouver sur le site atelier-du-bocage.fr. On va pouvoir raccrocher officiellement cette émission. Merci à tous pour vos appels, vos réactions ce matin. Merci à Antoine, Baptiste et Catherine à la réalisation. On se retrouve demain 9h-11h dans Je pense donc j'agis. On parlera de la situation des églises orthodoxes en Russie.